France Inter.fr.
Vous écoutez France Inter, les 19h10. Le journal Olivier Bénis, bonsoir.
Bonsoir à tous. Toujours pas de nouvelles de Tizio, 2 mois enlevé par son père en plein hôpital à Toulouse et en danger de mort s'il ne reçoit pas des soins rapidement. Une alerte enlèvement a été lancée ce matin, mais pour l'instant sans succès. 200 millions d'euros de dégâts au bas mot après la tempête Eleanor. C'est l'estimation faite par les assureurs aujourd'hui, alors que 5 personnes sont mortes depuis hier dans les intempéries. Toujours Charlie, mais pas Charlie pour tout le monde, avant les hommages officiels demain, 3 ans après l'attentat contre Charlie Hebdo. Un premier rassemblement plus sélect se tenait aujourd'hui aux Folies Bergères. Nous y serons en direct dans ce journal. Enfin, nous irons aussi à Limoges, une ville qui a rendu hommage à l'une des figures historiques du basket français, Frédéric Forté, mais aussi à Lima, sur la route du Dakar 2018 qui a commencé cet après-midi. Immense inquiétude toute la journée sur le sort de Tizio, ce bébé de 2 mois enlevé hier soir par son père à l'hôpital Purpan à Toulouse. Un mot a été retrouvé dans sa chambre, père parti en promenade avec l'enfant et depuis, plus aucune nouvelle. Une alerte enlèvement a été lancée dans la matinée et la situation est particulièrement urgente. Le petit garçon souffre d'une pathologie qui nécessite des soins. Son pronostic vital est donc engagé, d'où la mobilisation de tous les services concernés et notamment la directrice générale du CHU de Purpan, Anne Ferrer.
Tizio avait été transféré le 26 décembre d'un centre hospitalier voisin pour bénéficier d'une prise en charge adaptée à sa pathologie nécessitant des soins attentifs dans une unité de pédiatrie du CHU. J'ai rencontré la maman de Tizio. Toute l'équipe hospitalière la soutient dans ce moment difficile. Nous travaillons en étroite collaboration avec la gendarmerie en charge de l'enquête et le parquet pour retrouver Tizio. Je souhaite m'adresser à Brendan, le papa de Tizio, lui rappeler la gravité de l'état de son fils, que ses jours sont en danger et l'impérieuse nécessité de ramener son petit garçon dans le service d'urgence le plus proche où il se trouve, au CHU, où l'équipe est prête pour l'accueil de Tizio ou venir le chercher où qu'il se trouve, en toute sécurité, sur simple appel du 15.
Anne Ferrer, la directrice de l'hôpital de Purpan, au micro de Frédéric Bourgade, le père de l'enfant, est grand, mince, porteur d'une barbe fournie et de cheveux longs bouclés bruns à noir. Il est susceptible de se déplacer dans une Peugeot 307 blanche, immatriculée 5608 GP09. Toutes les informations sur cette alerte enlèvement en cours sont notamment visibles sur notre site franceinter.fr. L'année 2018 aura commencé avec 2 tempêtes majeures en une semaine. Carmen, lundi dernier, Eleanor, depuis hier. Cette dernière a tout de même fait 5 morts en France. 15 départements ont été maintenus ou placés en vigilance orange par Météo France cet après-midi pour des risques d'inondation et les dégâts sont considérables. Une première estimation de la Fédération française de l'assurance parle d'un coût d'au moins 200 millions d'euros. Au moins, car selon Arnaud Schneeweis, délégué général de cette fédération, ce chiffre est encore provisoire. La tempête ayant encore balayé l'est du pays cet après-midi, avec un risque fort désormais de crues des rivières et des fleuves locaux.
Il faut prendre avec beaucoup de prudence ce premier chiffre qui recouvre les premières estimations des 2 tempêtes Carmen et Eleanor. Il pourrait y avoir environ 150 000 sinistres et un coût de l'ordre de 200 millions d'euros. Ce sont des estimations faites à partir de sondages auprès de nos adhérents, les assureurs, en estimant ce qu'ils ont reçu comme déclaration de sinistre à ce stade, ce qu'ils vont probablement encore recevoir dans les prochains jours. On a fait une projection et on est arrivé à ce chiffre. Et c'est pour ça que, puisqu'il s'agit d'un sondage et que l'événement n'est pas complètement terminé, puisque les gens n'ont pas forcément fait leur déclaration encore, il y a un délai de 5 jours. Si les délais ne sont pas strictement respectés, les choses seront évidemment regardées avec bienveillance. C'est pour ça qu'il faut prendre cette première estimation avec prudence. Mais en même temps, si on a communiqué le chiffre, c'est qu'on estime qu'il est crédible.
On reviendra évidemment sur les conditions météo de ce week-end à la fin de ce journal. Les recherches à nouveau interrompu par la tombée de la nuit sur la Seine, recherche pour tenter de retrouver une policière de 27 ans de la brigade fluviale disparue lors d'un entraînement de routine sur le fleuve qui traverse la capitale. Les recherches reprendront demain matin à 8h30. Et puis, c'est un compteur de victimes qu'on ne voit pas toujours très bien depuis la France, mais qui grimpe avec une constance effrayante au fil des années qui passent. Au moins 25 personnes sont mortes aujourd'hui dans le naufrage d'un navire transportant des migrants au large de Libye. Une embarcation qui transportait environ 150 personnes. 85 ont pu être secourus pour le moment. Souvenez-vous, c'était il y a un peu moins de 3 ans, le 11 janvier 2015. Des millions de Français défilaient dans les rues du pays, en particulier à Paris, pour rendre hommage aux victimes des attentats des jours précédents. 17 victimes au total dans les locaux de Charlie Hebdo et à l'hypercachère de la Porte de Vincennes, dont 12 dans l'attaque contre la rédaction du journal satirique. Parmi eux, Cabu, Volinsky, Tinius, Charb, Honoré ou Bernard Maris. Un 11 janvier 2015 sous le signe de l'unité, donc avec un slogan né sur les réseaux sociaux « Je suis Charlie », slogan qu'ont à leur tour repris plusieurs associations de défense de la laïcité pour une journée spéciale aujourd'hui, toujours Charlie, aux Folies Bergères, en présence de personnalités pas toujours très consensuelles sur le sujet. Environ 1 millier de personnes sont présentes sous haute protection. Bonsoir Thibault Lefebvre.
Bonsoir Olivier.
3 ans après, la grande union ouverte et populaire du 11 janvier semble assez lointaine.
Oui, en effet, c'est un événement qui ne fédère pas vraiment, à commencer par l'équipe de Charlie Hebdo. Le directeur de la rédaction RIS, les dessinateurs Coco ou Villemain sont par exemple absents. 2 représentants seulement de l'hebdomadaire satirique, le rédacteur en chef Gérard Briard et sa directrice des ressources humaines, Marie Cabrette.
Pardon, mais c'est un week-end extrêmement difficile. Moi, je peux vous dire, ce matin, ma première pensée, elle était pour Charme. La remontée de tristesse absolue était là. Leur force me porte, moi, personnellement. Pour d'autres de l'équipe, ils sont au fond de leur lit, sous la couette, parce que c'est encore très difficile. Donc l'équipe Charlie ne s'est évidemment jamais opposée à cette journée, comme je l'ai entendu. Ce qui est important, c'est que les convictions politiques sont là et ce sont toujours les mêmes. J'allais dire, lire le numéro de cette semaine, il y a tout dedans, vraiment.
Des convictions politiques partagées par Elisabeth Badinter, Anne Hidalgo, Caroline Fourest ou encore l'ancien Premier ministre Manuel Valls, tous présents ici aux Folies Bergères pour défendre leur vision de la laïcité. Mario Stasi est le président de la LICRA, il co-organise l'événement.
Quand vous regardez l'actualité de ces derniers mois, qui vient dire qu'un autre journal fait la guerre aux musulmans alors qu'il ne se permet simplement d'exprimer sa liberté de critique et d'expression d'une religion?
Vous pensez à Mediapart?
Je pense à Mediapart. Ils n'ont pas leur place ici. C'est aussi un mouvement de résistance face à ces attaques-là. C'est cette liberté d'expression et de critique qu'il faut protéger.
Protéger, défendre, résister, un vocabulaire belliqueux assumé par les organisateurs. Preuve de cet esprit très offensif, le titre donné à cette journée... Toujours Charlie, de la mémoire au combat.
Thibault Lefebvre en direct des Folies Bergères avec Benjamin Thuot pour les moyens techniques. Merci à vous deux. La journée de demain sera marquée par des commémorations moins politisées, plus officielles. Emmanuel Macron et Anne Hidalgo rendront hommage aux victimes des attentats de janvier 2015 de 11h à midi à Paris. Hommage qui restera aussi sobre que possible à la demande express des familles. L'hommage de la République française à la Corse, quelques mois après des incendies massifs qui ont ravagé certaines zones de l'île. Ce matin, Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, chargé notamment du dossier Corse, était en visite sur place, notamment dans 3 communes sévèrement touchées par les incendies. 2000 hectares brûlés, des exploitations agricoles détruites, 10 d'habitations détruites également. Le reportage de Christophe Djouidjele.
C'est par les airs, vers 9h du matin, que Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, est arrivée à Valle di Campolour pour y rencontrer les pompiers. Une arrivée en hélicoptère qui lui a permis de visualiser l'étendue du sinistre.
On voit très bien, effectivement, toutes les zones brûlées, hein, toutes les zones grises, je dirais, par rapport à la végétation verte qu'on voit partout ailleurs. Et on voit très bien comment les villages étaient encerclés. Hein.
Jacqueline Gourault était surtout attendue par la population après la visite d'une bergerie détruite par les flammes sur la commune de Quéadre. La ministre s'est rendue dans les rues du village où elle a pu rencontrer la population.
Vous avez plus de maison?
Non.
Il n'y a que la plaine.
Nous sommes habillés de pied en cap par la solidarité.
Vous êtes magnifique.
Pancras Maurice, la mairesse de Quéadre, se dit satisfaite de la visite de la ministre.
Vous savez, quand nous avons un ministre sous la main, on expose nos problèmes et on aimerait bien que... des solutions soient apportées et donc nous espérons avoir l'aide de l'État au plus haut niveau.
Quant à la proclamation d'un état de catastrophe naturelle, Jacqueline Gourault ne s'est pas avancée sur le sujet. À Bastia, Christophe Djouidjele, France Bleu RCFM pour France Inter.
On quitte la Corse pour l'Espagne. Comme en France, on y fête l'épiphanie aujourd'hui, mais pas du tout de la même manière. Là-bas, c'est un jour férié dans tout le pays, oui, même en Catalogne. Les boutiques et les centres commerciaux se mettent aux couleurs de ce jour des rois mages, tout comme les rues et les télévisions locales. Bref, ce 6 janvier, c'est un peu un autre Noël. Correspondance à Madrid de Pierre Chaperon.
À voir tous les événements organisés dans le pays, l'épiphanie est plus qu'une tradition. C'est une institution. Jour férié ici, El Día de los Reyes Magos, c'est aussi tout un cérémoniel. Une fête mise au goût du jour au XIXe siècle qui débute dès la veille. Défilé dans les rues des villes et villages d'Espagne avec chants, danses, musique et jets de bonbons. Objectif, recréer l'arrivée des rois mages. Dans les maisons, les enfants doivent laisser leurs chaussures pour recevoir leurs cadeaux. Le tout accompagné d'un petit gâteau pour remercier les rois mages de leur voyage. Enfin, la journée du 6 janvier se termine avec la galette des rois, El Roscón de los Reyes. Avec la fève à l'intérieur, c'est un gâteau rond brioché avec des fruits dessus, évocation des bijoux portés par les rois mages. Si Noël est fêté, l'épiphanie reste un jour plus important pour s'offrir des cadeaux. Madrid, Pierre Chaperon, France Inter.
Et on notera que les Espagnols ont choisi leur camp dans la guerre entre galette briochée et galette frangipane. Non, Donald Trump ne doute pas de ses facultés intellectuelles suite à la publication hier d'un livre polémique, Fire and Fury, qui est nettement moins convaincu que lui sur la question. Le président des États-Unis a assuré aujourd'hui dans plusieurs tweets être un génie très stable. Tout au long de ma vie, mes deux atouts ont été ma stabilité mentale et le fait d'être genre très intelligent, je cite. Donald Trump qui a aussi salué tout à l'heure cette information. Il y aura sans doute des sportifs nord-coréens aux JO d'hiver le mois prochain. Jeux olympiques organisés en Corée du Sud du 9 au 25 février. La Corée du Nord estime que sa participation est vraisemblable cette année, histoire de profiter des relations glaciales entre les deux pays voisins pour au moins y faire du ski. Plus largement, Séoul et Pyongyang ont annoncé hier reprendre des discussions diplomatiques prochainement pour la première fois depuis 2 ans.
Le journal de 19h sur France Inter.
C'est une disparition qui a endeuillé en ce début d'année le monde du basket français. Frédéric Forté, ancien joueur, président du club du CSP Limoges, est mort donc le 31 décembre à 47 ans. Un hommage lui a été rendu toute la journée dans la capitale limousine au Palais des Sports de Beaublanc où le club dispute ses matchs à domicile. C'est dire à quel point le personnage était emblématique, Jérôme Edan.
Il ne manquait personne dans ce palais des sports de Beaublanc, méconnaissable. Bien sûr, la famille et les amis des élus et la ministre des sports, mais aussi les anonymes.
C'était un grand monsieur. C'est difficile de s'imaginer qu'il est plus là.
Les supporters.
Il fait partie de nos cœurs de supporters.
L'équipe actuelle, les dirigeants du club et les anciens coéquipiers comme Richard Dacoury.
Je déteste ce que je suis en train de vivre, mais je l'aime à la fois parce que l'hommage est beau, l'hommage est grand.
Un immense hommage car Frédéric Forté n'était pas qu'un président de club. Il représentait à lui seul le Limoges CSP et le CSP représente presque à lui seul le basket français. Premier club hexagonal, tout sport confondu, à décrocher un titre européen. C'était en 93, avant même l'Olympique de Marseille. Alors Limoges et le basket doivent tellement à Frédéric Forté que cet hommage s'imposait de lui-même.
Nous souhaitions avant tout dire merci. Merci à Frédéric Forté pour tout ce qu'il a apporté au club, à la ville, à ses supporters, en tant que joueur, dirigeant, président. Voilà, il nous a fait rêver et je pense qu'il fallait dire merci.
Cet immense merci a résonné dans un palais des sports, on le disait, méconnaissable, d'habitude rythmé par 1000 projecteurs et 1000 chants de supporters, mais aujourd'hui assommé par l'émotion et le recueillement.
Un palais des sports qui pourrait d'ailleurs prendre le nom de l'ancien président, c'est en tout cas une proposition du maire de Limoges. Émile Roger Lomberti. Troisième podium de Coupe du Monde cette saison pour la skieuse française Tessa Worley. Elle est arrivée deuxième tout à l'heure sur le slalom géant lors de la deuxième manche à Kranjska Gora en Slovénie. Juste derrière Mikaela Shiffrin, quasi inaccessible pour ses concurrentes et pourtant enrhumée littéralement depuis quelques jours. Tessa Worley peut tout de même être plus que satisfaite de sa performance.
Oui, je suis contente. L'état d'esprit il se rapproche vraiment de plus en plus de ce que je recherche. Je fais une bonne première manche dans le ton. Maintenant, Mikaela a été vraiment, vraiment très forte sur la première manche. Et en deuxième, je l'ai poussée, je pense, dans ses retranchements et j'ai réussi à aller grappiller du temps. Il m'en manquait un tout petit peu. Peut-être que sur la fin du parcours, j'aurais pu être encore un petit peu plus engagée. Mais voilà, je suis contente, je suis vraiment dans la bonne direction. Après, c'est une deuxième place et j'ai envie de continuer dans cette direction pour m'améliorer.
Tessa Worley au micro, mais pas sur une musique de Franck Ballanger. Le 40e Dakar est parti en début d'après-midi de la capitale péruvienne Lima. 335 véhicules, 523 concurrents enregistrés et 14 étapes à boucler d'ici le 20 janvier prochain. Sur la ligne de départ, on a assez peu entendu les nombreuses critiques sur son impact sur l'environnement, couvertes par le bruit des moteurs et par le succès populaire. Lors de son précédent passage au Pérou, il y a 5 ans, le Dakar avait attiré entre 600 000 et 700 000 personnes. Récit du départ de cette édition 2018 avec Guillaume Batin.
Salut Stéphane.
Jean-Paul.
C'est le premier jour, laissez-moi me remettre dans le bain. Soyez indulgents.
Toutes ces 30 secondes, les 337 motos, quads, autos et camions ont quitté Lima et le grand parking du Pentagonito, le ministère de la Défense péruvien. Les pilotes attendaient à l'ombre des tentes du village départ. Il faisait déjà 30 degrés à 9h du matin. Les motards sont partis les premiers. En combinaison, bottes et casques sur la tête, plus de 10 kilos de matériel et de boissons hydratantes pour parcourir les 272 km de cette première spéciale dans les dunes de sable jusqu'à Pisco. Après la visite du président de la République Pedro Pablo Kuczynski, les premiers équipages de la catégorie auto se sont présentés à leur tour. Stéphane Peter Ancel et Sébastien Loeb notamment. Le 40e Dakar est parti. Il ne reste plus que 9000 km à parcourir d'ici Cordoba en Argentine. À Lima, Jérémy Thuil, Guillaume Batin, France Inter.
Un septième titre sur le circuit ATP à l'actif de Gaël Monfils, le tennisman français qui a remporté tout à l'heure l'Open de Doha en battant en finale le russe Andrei Rublev. 6-2, 6-3 à 31 ans. Gaël Monfils est aujourd'hui 46e joueur mondial. Une petite pincée de football également avec les 32e de finale de la Coupe de France. Et cette petite frayeur tout à l'heure pour les supporters de Montpellier. L'équipe a remporté de justesse son match contre Pontarlier au tir au but. Lille a battu en revanche Le Mans 4-2. Toulouse bat Nice 1-0. Et notez que Grenoble, l'équipe de National, a battu Ajaccio en Ligue 2 de buts à 1. Comme tous les samedis soirs à plus ou moins 19h16, c'est la chronique La Vie Connectée. Bonsoir Christine Siméone.
Bonsoir Olivier.
Alors on part au Forum des Images à Paris avec vous. Ce soir, on fait le pari d'une diffusion régulière de films en réalité virtuelle là-bas avec des nouveautés chaque semaine. Ça s'appelle les samedis de la VR. Alors en quoi ça concerne notre vie connectée?
Parce qu'on peut y voir des films avec des casques. Il faut donc effectivement aller au Forum des Images. Mais certains de ces films peuvent être aussi déjà dans votre smartphone. Exemple, si vous avez installé l'application Arte 360 que je ne saurais que trop vous conseiller, vous pourrez profiter d'un documentaire que j'ai découvert au Forum. C'est Les Ménines de Diego Velázquez.
Je vous regarde et vous vous demandez sûrement que suis-je donc en train de peindre sur cette toile? Est-ce que je vous peins? Sans doute pas. Il m'amuse que vous vous posiez cette question pour les siècles à venir.
Alors là, comme ça, on a l'impression que c'est un documentaire de plus hein, sur ce tableau déjà archi commenté où on peut voir l'infante d'Espagne au premier plan, à côté du peintre, devant sa toile, les parents foutent la pièce, etc.
Voilà, alors de plus, oui, on peut dire que c'est un documentaire de plus avec une voix off et des explications. Mais non, car c'est aussi un jeu d'invention pour le réalisateur Carlos Franklin. Avec les possibilités de la VR, on se promène comme jamais dans cette pièce, au milieu de ces personnages, et surtout le réalisateur s'amuse à imaginer ce que le peintre, au premier plan, est en train de peindre sur cette toile qui nous tourne le dos. Les Ménines et son mystère, n'était-ce pas le tableau tout trouvé pour ce genre d'exercice? N'était-ce pas un peu trop facile? Explication avec Saskia Nili, productrice du film.
Trop facile et en même temps un petit peu osé parce que personne ne sait ce que peint Velázquez. Donc quand on s'est lancé là-dedans, on s'est dit aussi mais qu'est-ce qu'on va montrer au public? Est-ce qu'on a le droit d'inventer aussi? Alors bien sûr, on se base toujours sur des études, mais on se permet aussi voilà, de raconter d'autres choses, d'en inventer et de donner notre point de vue aussi.
Alors il y avait déjà eu une expérience du même genre, cette fois sur les Tentations de Saint-Antoine de Jérôme Bosch, et selon Arte, ça avait fait 1 million de vues.
Oui, parce que ce sont des produits quand même assez exceptionnels. Et alors, vous les voyez dans votre smartphone, effectivement, mais mieux que cela encore, je vous invite à aller faire l'expérience et ce genre d'expérience au Forum des Images à Paris, lors des samedis de la VR. C'est à peu près tous les 15 jours, en fait, jusqu'au mois d'avril. Ça se terminera par un festival de la VR.
Merci Christine Siméone, et on rappelle que toutes les informations que vous nous avez données sur ces samedis de la VR, et puis quelques expériences aussi, sont disponibles sur franceinter.fr.
Merci à vous Olivier Bénis. Tout de suite, les couleurs du temps avec Jean-Michel Golinski de Météo France.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R la mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va?
L'épisode méditerranéen qui s'est mis en place, poussé par un vent d'est sensible, va donner beaucoup de pluie demain, parfois accompagné d'orages du Languedoc-Roussillon en allant vers le Rouergue et le Lauragais. Le Roussillon est d'ailleurs placé en vigilance orange en raison des fortes pluies attendues. Entre l'est du Rhône, la Bourgogne, l'Alsace et le Jura, malgré une nébulosité importante, le temps va rester sec. Mais plus à l'ouest, il sera difficile d'échapper à la pluie, des pluies plus denses sur la façade atlantique et parfois même mêlées de flocons en début de journée du nord de la Somme vers les hauteurs du Maine et de la Normandie. Temporairement, il risque de neiger à basse altitude sur les contreforts sud du Massif central, plus sûrement vers 1400 mètres sur les Pyrénées et sur les Alpes frontalières. L'après-midi, il fera entre 3 et 7 degrés dans la moitié nord, sensation de fraîcheur accentuée par un vent de nord-est très désagréable, contre 10 à 13 prévus dans le sud-ouest et 16 à 20 autour de la Méditerranée.